Moi, je vais répartir un peu de ce qui a été dit par Anne, hein, dans le sens que parmi les personnes qui ont parlé ce soir, moi, j'ai été la seule à ne pas avoir été pénétrée par les flux de parole. Il se bataille, ni avoir touché le corps du Christ. Par contre, j'ai été très fascinée par la tentative de pénétrer le flux de l'écrit. Donc, c'est plutôt une position active que passive, du coup, de mon côté. Et j'ai trouvé que dans cette activité un peu parfois désespérée dans laquelle on a l'impression d'être confronté à Radio Tokyo, comme tu disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui est extrêmement utile à une phase de réfabrication. Donc pour revenir à ce que tu disais, c'est une lecture qui est très utile quand on se réfabrique par petits morceaux, donc en phase de bricolage, même si on n'est pas en phase maniaco-dépressive, ça revient au même. Et l'approche qui a été la mienne dans la lecture de Guattari, ce qui m'a toujours intéressée du début jusqu'à la fin, qui n'est pas fini, je suis juste au début, c'est une question de cartes. Moi, ce qui me fascine, qui revient dans ce chapitre des cartes de Cosmos qu'on est censé lire ensemble ce soir, le fait que 2000 plateaux, qui est le premier texte Guattari que j'ai lu, parce que c'était Guattari avec Deleuze, où il y avait des questions de rhizomes, de plantes, de cartes, de calques, mais aussi dans des textes un peu moins connus que j'ai découvert par la suite, comme beaucoup de ceux qui n'ont pas touché le corps du Christ, donc qui ont découvert ce genre de textes très tard, hein, parce qu'ils étaient à un moment épuisés, difficiles à trouver, difficiles d'accès, donc ce retour à la lecture de Guattari, ce premier nouveau départ de la lecture de Guattari en France, extrêmement récent, ça date de quelques années. L'autre moment dans lequel cette référence à la cartographie était très présente pour moi, je l'ai découverte tout un autre angle, ce sont les cartographies de l'inconscient machinique. Hein. Je trouve une approche de l'inconscient qui est absolument fascinante, complètement différente de ce qu'on a l'impression de percevoir normalement dans la pratique ou la théorie psychanalytique. Mais ça revient aussi dans les cartographies schizoanalytiques, hein, donc que Guattari évoque à nouveau dans Cosmos, quand il parle des flux matériels, énergétiques et sémiotiques, des phylums machiniques, concrets, abstraits, des univers incorporels ou des territoires existentiels, qu'on ne va pas expliquer ce que c'est parce que personne ne le sait, mais on y travaille. Dans tous ces textes, il y a une constante, d'après moi, qui est celle d'avoir toujours recours à des diagrammes, à des cartes et à des cartographies qui ne sont jamais définies et qu'il faut toujours construire à chaque fois. Avec toute la question que je trouve là aussi fascinante, qui est travaillée par quelques-uns, de la différence entre les diagrammes et les cartes. Hein, le diagramme et les cartes, ce n'est pas la même chose. Parfois, ça paraît être une phase préparatoire de la carte. Parfois, ça paraît être autre chose, plus abstrait, comme une machine abstraite qui superposerait à la carte comme machine un peu plus concrète. Mais il y a toute une. Là aussi, une cartographie des cartes à faire, qui est un autre travail que certains sont en train de faire de façon très, très intéressante pour moi. Dans mon cas particulier, c'est cette présence, omniprésence des cartes dans le texte de ce monsieur m'a amené effectivement à aller voir ce que faisaient avec les cartes les géographes, les architectes, les urbanistes, etc. Donc pour moi, ça a ouvert un espace extra-guattarien extrêmement intéressant. Ça, c'est personnel, mais c'est une forme de refabrication ou de remise en marche de la fabrication. Et ce que je trouve absolument intéressant, pas seulement dans la compréhension des cartes ou des cartographies telles qu'elles sont présentées par Guattari lui-même, mais plus en général dans ce qu'on peut entendre par carte et cartographie dans des domaines complètement différents de ceux des textes de Guattari, c'est que les cartes dont il est question ne sont jamais des représentations de quelque chose qui serait donné, qui serait déjà là, hein. Notamment dans le cas de l'inconscient, il ne s'agit pas de représenter un territoire, si on va rester dans la métaphore de la carte géographique, qui serait déjà là, mais c'est la tentative de mettre en mouvement des cartes qui sont des cartographies dynamiques. Donc, qui ont comme objet des processus, mais qui sont elles-mêmes processuelles. Hein. Parfois, Guattari dit qu'elles sont performatives. C'est-à-dire que si cette activité de cartographie marche à un moment donné, elle ne marche pas toujours elle risque toujours de s'interrompre, des blocages, des pannes, etc. C'est risqué d'emblée. Mais si elle marche, elle permet de remettre en mouvement des choses. Et c'est particulièrement évident dans la façon dont il parle de la schizoanalyse dans l'inconscient machinique comme une forme de cartographie, en insistant à plusieurs reprises, mais il le fait aussi dans Cosmos, en disant que ce qui l'intéresse dans la lecture, qui n'est pas une interprétation, dans la cartographie de ce qu'il appelle l'inconscient machinique, ce n'est pas d'identifier des fixations dans le passé, mais c'est plutôt de trouver des pointes, des déterritorialisations qu'on peut remettre en mouvement vers un futur. Hein. Peut-être avec, pas dans l'accélération qu'on évoquait tout à l'heure, avec des étapes, des rythmes différents, mais avec une constante, je trouve, qui est réaffirmée à plusieurs reprises, c'est que ce qui met en mouvement, c'est le point le plus déterritorialisé. C'est-à-dire que même dans les cartographies les plus bloquées, les plus paralysées, les plus statiques et les plus apparemment désespérées, comme celles que nous connaissons aujourd'hui au niveau politique, il y a une pointe déterritorialisée qui peut, si elle est cartographiée, sollicitée, mise en mouvement comme il faut, remettre en mouvement tout le reste. Moi, je trouve que même dans les pires moments de désespoir, cette idée que la déterritorialisation précède d'une certaine manière la territorialisation dans une sorte de futur intérieur qui était évoqué tout à l'heure est très réconfortante, mais de façon très pragmatique, pas du tout théorique, hein, les deux allant ensemble. Et l'autre aspect que je trouve fascinant dans la lecture des textes de Guattari, mais de Cosmos en particulier, c'est que comme tous les grands textes, hein, il doit se produire exactement la même chose pour certains, avec Platon, Spinoza, avec Deleuze, c'est sûr, avec Foucault aussi, mais ça dépend des auteurs, c'est qu'à chaque fois qu'on les lit, même qu'on les a lus plein de fois, apparaissent complètement, effectivement, inconnus. Hein. C'est, moi, j'ai réouvert ce chapitre de Cosmos que quand même. J'ai lu un certain nombre de fois et pour moi, c'était un texte jamais lu, complètement. Je pense que c'est le propre des textes théoriques, denses, vrais, importants, etc. Différence et répétition, ça fait exactement le même effet. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'on y découvre à chaque fois une cartographie différente. Probablement, ça va dépendre de quel stade de réfabrication, du stade de refabrication dans lequel on se trouve soi-même. Et pour revenir sur, donc je voudrais juste vous revenir sur quelques remarques sur l'activité de cartographie qui sont dans les pages de Cosmos autour desquelles on s'est réunis ce soir. Il y a une phrase qui m'a frappée, page 175, qui m'a frappée de nouveau, elle a dû me frapper déjà plein de fois dans le passé, mais je l'ai oubliée, qui disait que cette activité de cartographie incessante est plus modeste et plus audacieuse à la fois que les productions conceptuelles auxquelles l'université nous a accoutumés. Et explique pourquoi, et c'est une très belle explication, c'est, il dit qu'il s'agit d'une activité plus modeste dans la mesure où, quand on cartographie, on se situe dans le renoncement préalable à toute prétention à la pérennité. Même quand il parle de métamodélisation, on sait bien que ces modèles sont des modèles qui se reconstruisent en fonction des singularités qu'ils rencontrent, et plus audacieuse parce qu'en réalité, elle ne peut pas s'appuyer sur un modèle, un paradigme, une forme d'herméneutique, d'interprétation, de complexe, dans le cas de la psychanalyse, qui serait donnée une fois pour toutes, mais parce que d'une certaine manière, cartographier, ça veut dire être condamné, entre guillemets, toujours à expérimenter, à rechercher, à être confronté à la singularité. Et donc, le point important qu'il évoque aussi, page 176 cette fois-ci, c'est que il y a ce qu'il appelle un franchissement du seuil d'intensité de l'imagination spéculative. Ça aussi, c'est très bon, hein. Franchissement du seuil d'intensité de l'imagination spéculative parce que penser dans tous les domaines, si je comprends bien ce qui est dit ici et ailleurs, ce n'est plus une activité isolée, ce n'est plus une activité abstraite, mais ça ne se fait que par l'engagement dans des pratiques sociales, esthétiques et analytiques novatrices, dit-il. Et d'où l'insistance qu'il y a partout dans ces textes et qu'on retrouve exprimée de façon très claire. Donc, je vous invite à vous y reporter dans Deleuze à la Borde, qui a été publié récemment. Dans les pages 79 et suivantes, je trouve qu'il y a une redéfinition de la subjectivité comme hétérogène et hétérogénèse qui est particulièrement claire, dans laquelle il dit de façon absolument limpide, hein, pour une fois, que la psyché est la résultante de composantes multiples et hétérogènes qui ne révèlent jamais seulement, ça le dit tout le temps, pas seulement du registre de la parole, mais aussi des rapports au corps, à l'espace. Et cette attention à l'espace est une attention qu'on retrouve constamment chez lui, comme on retrouve l'attention à la technique et comme on retrouve l'attention à l'ancrage, à l'articulation entre les deux. Et des comportements éthologiques. Hein. Nous, cet intérêt constant aussi de Guattari pour l'éthologie qu'on trouve dans les pages de Mille plateaux de l'inconscient machinique qui sont consacrées à la ritournelle, mais qu'on retrouve encore dans ce livre que je vous citais tout à l'heure de L'Eros à la borde, où vous avez la troisième partie qui contient deux sous-chapitres, un chapitre qui s'intitule « La hiérarchie des comportements chez l'homme et l'animal et la sémiotique du brin d'herbe », bien connu partout les lecteurs de Guattari et de ses confrontations avec les oiseaux, dont je vous lis juste quelques lignes. Il serait absurde de séparer radicalement, comme le font certains psychanalystes structuralistes, le désir humain, sous prétexte de son support privilégié au langage et à la loi, de celui de l'animal, dont les fascinations rituelles dépendent tout autant de contraintes sémiotiques agrémentées de dépenses ostentatoires et de jeux gratuits. Je travaille sur la continuité entre les sémiotiques animales et les sémiotiques humaines, je trouve aussi absolument fascinant. Et je termine, parce que j'ai largement dépassé le temps extrêmement strict qui m'a été imparti, je termine sur une citation venant de la page 176 de Chaosmos, que j'avais à nouveau oubliée, que je trouvais à la lecture absolument magnifique, qui est que la cartographie écosophique n'aura donc pas pour fin première de signifier et de communiquer, mais de produire des agencements d'énonciation aptes à capturer les points de singularité d'une situation. On revient à cette histoire de la pointe la plus avancée, la plus singularisée, la plus déterritorialisée, dont d'une certaine manière, on ne peut jamais prévoir a priori dans quel domaine, dans quel contexte, ces points de singularité ou de déterritorialisation vont se manifester, vont apparaître. Hein. Donc je trouve que c'est quand même un espoir pour ce qui va arriver. Voilà.
Je veux soir, oui. Je veux dire deux choses très très vite. Comme réponse peut-être à ce que Graham a sollicité à propos de la question de l'accélération et aussi Valérie, mais et aussi pour voir comment, de quelle façon ça a fonctionné dans le temps, cette activité qu'on peut synthétiser avec l'expression écrire et cartographier des contrées à venir. Écrire dans un sens très large, créer, imaginer, produire des signes de façon créative et de façon de cartographier des contrées à venir. Alors, on n'est pas seulement aujourd'hui à 20 ans de distance des Chaosmos, on est aussi à 40 ans de distance de la publication de l'Anti-Édipe. Et je voudrais réfléchir très vite sur cette espèce de cartographie des contrées à venir qui s'est déroulée pendant 40 ans. Il y a un livre de Miguel Benassayag qui vient de paraître, qui est paru il y a un an, et qui s'appelle « Organismes et artefacts ». C'est un livre un peu confus, mais il dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Le rhizome est partout, le désir est partout ». Et il dit même, il ne le dit pas « Pertis verbis », mais on peut le lire dans son livre. Benassayag est un copain, un guattarien de Leusien, mais il dit, là-bas ou non, je ne sais pas, Lucia doute de ça, mais mais ce qu'il dit est que les néolibérismes, l'effet paniquant de l'accélération néolibériste est inscrite dans est inscrit dans la cartographie des contrées à venir qu'est l'Antiédipe. Le désir qui se transforme en désir panique, c'est ça que nous devrions être capables de comprendre aujourd'hui si on veut revitaliser la leçon de Félix. Quand j'ai connu Félix, c'était le printemps 1977, et je venais de m'échapper d'Italie, et je le rencontrais, et on a parlé surtout des radios libres, parce que c'était la chose qui m'intéressait, et qui a intéressé aussi Félix. Mais il faut le dire, les radios libres, ça a été la préparation, l'ouverture, la brèche qui a permis au capitalisme effréné, au sémi-capitalisme effréné berlusconien, baroquisant et agressif, de transformer de façon horrible le Mediascape. Et à Bologne, le mouvement de Bologne, qui était, je dirais, le plus proche de la pensée de Luz Guattari, en 77, à Bologne, on criait Precario è bello, précarité est beau. Et c'était une façon de dire qu'on avait marre du travail prison, du travail pour la vie. Et c'était une façon de dire que la précarité, ça peut être un choix, ça peut être une possibilité de mettre en danger la continuité pour trouver du désir. Et voilà, aujourd'hui, 40 ans après l'Antiédipe, 20 ans après Kaosmos, le désir qui devient désir panique. Et Kaosmos est dans le point dans lequel ça se situe, dans le point dans lequel ça commence à devenir possible, une compréhension de cette espèce de renversement de la perspective du désir dans la perspective de la panique. Il ne faut pas évidemment penser qu'on s'est trompé quelque part, on ne s'est jamais trompé. On a fait le travail de cartographier des contrées à venir et de vivre la souffrance dans notre corps, sous notre peau, de vivre la souffrance de cette devenir autre que l'histoire des dernières 40 ans nous ont consigné.
Dans Mille plateaux, le chapitre sur la visagéité parle de ce désir panique. Alors, c'est peut-être lié aussi à des conversations particulières avec Félix, ça, je ne me rends pas bien compte. Mais donc, il disait, on est complètement aspiré par les trous noirs, hein, et le désir va vers le trou noir, et il faut prendre la tangente par rapport au trou noir et rhizomatiser et foutre le camp de ce trou noir-là. Et après, on en trouvera d'autres, etc. Mais en fait, il y a toute une espèce de politique de la prudence, justement, et du ralentissement par rapport à l'aspiration dans le trou noir.
Oui, moi j'aurais ajouté que dès le début de Kaosmos, il y a cette qualité du temps qui est proposée comme étant un temps dans lequel on reprend forme et sens, et que ce temps, c'est celui-là aussi qui est parmi toutes les petites composantes qui peuvent concerner ce mot esthétique encore à travailler parce qu'il le met dans un contexte, je continue moi de penser, nouveau, enfin, dont il faut pouvoir se parler, en tout cas pouvoir le partager, et que le temps est quelque chose qui s'habite et se prend, voilà. On ne peut pas toujours être uniquement dans l'accélération, le happement, et j'apprécie aussi que le fait que tu dises qu'il peut y avoir aussi des choix. Je pense que forcément ça s'accompagne de choix. Est-ce que Olivier peut nous parler de choix qui ont été faits à une certaine époque pour travailler et aborder certains moments politiques et sociaux?
Oui, enfin bon, je vais essayer de dire quelques mots, mais ce sera très très loin de vos réflexions. Enfin, c'est Anne qui m'a demandé de venir, alors comme je fais une confiance aveugle en Anne depuis 40 ans, donc j'y vais. Mais c'est peut-être pas du tout dans le sujet. Alors moi j'ai été dans la branche du CERFI qui a été plutôt aller faire des choses dans le social, quoi, en gros, dans le secteur social. Et alors, bon, je voulais juste évoquer deux choses. Tu as parlé de 40 ans de distance, alors là c'est en 30 ans de distance. C'est d'une part, j'ai été, j'ai raconté comment, j'ai été chef de projet d'une opération de développement social des quartiers à Roubaix, donc je me suis occupé de logement social. Je suis maintenant à la retraite, militant dans une association de quartier et administrateur d'un office d'HLM. Et effectivement, l'écart qu'il y a entre les 30 ans qui se sont passés n'est pas sans m'interroger, notamment à travers la loi d'Allo et les effets de transformation de la politique de la ville.
La loi d'Allo, c'est le droit au logement opposable.
Le droit au logement opposable.
Ça veut dire que quand il vous est reconnu le droit au logement opposable, normalement l'État doit vous loger immédiatement dans un logement social. En fait, il y a plein de demandes non satisfaites et donc une situation assez folle où l'État est lui-même dans l'illégalité par rapport aux lois qui ont été votées.
Bon, je ne vais pas rentrer sur ce... je l'évoque un peu comme point de balise, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait extrêmement long et il faudrait une soirée vraiment spécifique sur cette question-là, puis il faudrait des gens que ça intéresse a priori, ce qui n'est pas nécessairement le cas, c'est quand même très technique. L'arrivée au moment, ce qu'a évoqué Anne, c'est la fin du CERFI, hein, quand il y a eu la décision de dissoudre le CERFI, on a créé des espèces de sous-CERFI. Il y a 5 sous-CERFI à peu près qui sont apparus, dont moi je m'occupais d'un des CERFI, CERFI Arte. J'ai été amené à être sollicité par quelqu'un du CERFI qui travaillait à Roubaix, qui avait fait l'accompagnement sur de l'urbanisme participatif, donc sur la transformation du logement. Et c'était quelque chose qui était justement ce qui arrivait, le résultat des années Giscard, en gros, qu'on était un peu sur la fin des opérations de résorption d'habitat insalubre. Il y avait quelques très grosses poches qui restaient. L'une, c'est le bidonville de Nanterre. Enfin, j'en cite deux, trois. La résorption du bidonville de Nanterre qui a donné donc l'opération de Grigny à la Grande Borne. Roubaix, qui était une ville qui avait été frappée par une mutation industrielle d'une violence absolument inimaginable, qui a perdu sur 120 000 habitants, elle a perdu 30 000 habitants, dans une agglomération qui était en perdition, l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing. Donc j'ai été sollicité pour venir, alors c'était avant la politique des quartiers, puisque c'est en 80, j'ai été sollicité pour venir comme ce qu'on appelait, et ça c'était un concept, une idée tout à fait serfienne pour moi, c'était les techniques à la population. C'est-à-dire qu'on était... était sollicité pour venir aider les gens, aider et traduire, en gros, entre le langage de l'administration, le langage des élus, c'est-à-dire du politique, de l'administratif, le fonctionnement des habitants et les divers groupes d'habitants, c'est pas homogène les habitants. Donc effectivement, et les aspects urbains, construction avait été largement avancée, et moi j'ai été sollicité pour intervenir sur tout le secteur social, dans un endroit où, en gros, tous les travailleurs sociaux avaient déserté, il n'y avait plus personne. C'était un quartier de 10 000 habitants, à peu près. Donc c'était de rentrer là-dedans, de travailler avec des habitants et de faire monter, parce qu'on rencontrait des... on aidait les habitants qui avaient eux-mêmes une mémoire, alors de groupes politiques, de traditions syndicales qui sont très fortes dans le Nord, traditions associatives aussi très fortes, les aider à trouver un mode de conversation avec avec l'autorité publique et le chef de projet. Mais enfin, là, bon, voilà, ça c'est le début. Et puis arrive la gauche au pouvoir, l'apparition des politiques des quartiers. Et donc, effectivement, les grandes politiques qui ont été menées à ce moment-là, qui étaient donc sur la prévention de la délinquance, sur la politique des quartiers, sur l'école avec les ZEP et sur la mission Schwartz sur les questions d'emploi des jeunes. Donc effectivement, moi je me suis retrouvé à ce moment-là prendre cette responsabilité de chef de projet sur le versant social de cette opération. Avec l'appui des habitants, effectivement, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a été dans un jeu d'échange assez complexe entre le politique, l'administration municipale. Pour vous donner une idée, moi, quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais arrivé, on s'était aperçu que Roubaix, c'était une ville qui avait une réputation épouvantable, puisque c'était une ville dans laquelle la majorité de la population, ou quasiment, était d'origine maghrébine, étrangère, et maghrébine principalement, avec trois temps d'arrivée de la population. Devant l'effondrement du textile, bon, on a essayé de baisser le coût de la main-d'œuvre, donc c'est une main-d'œuvre qui a été importée après 1962, à la fois des harkis et des populations maghrébines qui ont été amenées par le patronat pour vivre là. Et puis derrière, à côté, il y avait aussi un fonds de population fortement carmondisé qui habitait dans ces taudis sur lequel effectivement il y avait quand même pas mal de problèmes de savoir comment travailler avec eux. Voilà, donc ça c'est ce rappel. Voilà, et ce tissu d'échange qui a été construit avec les habitants, ça a permis de travailler sur essayer de créer des objets nouveaux, alors avec des concepts qui n'ont pas toujours très bien marché, hein, puisque c'est à l'époque c'était beaucoup l'idéologie des équipements ouverts, de faire une école ouverte dans laquelle on intégrerait des locaux associatifs, on ferait un restaurant de quartier, le restaurant de quartier pourrait accueillir les gens du quartier, bon, enfin toute une série de choses, de faire un foyer pour personnes âgées qui seraient intégrées dans le quartier face à l'école maternelle, de façon à ce qu'il y ait des échanges, tout ça. Bon, tout ça, c'était des idées, on a eu un peu de mal à les réaliser. Ça s'est passé même fort difficilement, évidemment, entre ces choses, entre l'idée qu'il y avait de ça et la réalité de la mise en œuvre, dans la mesure où le contexte social a changé. C'est-à-dire, effectivement, à la fois, on a bien fait la résorption d'habitat insalubre, mais on a une crise qui s'est creusée. Les deux, avec une apparition de la violence. Moi, c'est vrai que, par exemple, je peux dire que j'ai vu apparaître la toxicomanie de masse sur le quartier, je peux dire, en 2 ans. C'est-à-dire, bon, il y avait quelques personnes qui prenaient de l'héroïne, des choses comme ça, mais extrêmement peu. Et à un moment donné, des jeunes ont compris comment on allait à Amsterdam. Et ils ont fait un véritable pont routier entre les deux, et donc c'est apparu, donc ça a créé une problématique très différente en termes d'occupation de l'espace public, de rapport aux autres, alors qu'on était sur un héritage qui était plutôt un héritage ouvrier très pauvre, mais relativement tranquille d'une certaine façon, dans ses codes, voilà. Voilà, donc j'évoque ça parce qu'effectivement la participation des habitants, donc ça a donné une dynamique assez forte qui est devenue une politique officielle d'ailleurs, puisque l'institution de groupes d'habitants est devenue une obligation légale pour les communes dans la loi en 2002, démocratie, proximité, quelque chose comme ça, vers 2002, et avec aussi l'évolution de ces groupes d'habitants, dont certains sont devenus des lobbies extrêmement réactifs, voire réactionnaires, et qui ont posé toute une série de questions sur l'accompagnement de la vie quotidienne. Parce que c'était des forces plutôt de classe moyenne qui s'opposaient à l'arrivée d'autres gens et des conflits sociaux qui se vivaient via les groupes d'habitants et l'appropriation des groupes d'habitants. Mais enfin, ceci étant dit, c'est un élément du débat et c'est un élément avec lequel les élus sont amenés à travailler. Juste une petite image, oui, c'est ça, j'ai pas fini tout à fait. J'ai dit que c'était une ville très en difficulté et on s'est aperçu que là, pratiquement la totalité du personnel communal et des gens qui travaillaient à l'office d'HLM avaient quitté cette ville et n'y habitaient plus. Et donc passaient leur temps à dire c'est une ville épouvantable, c'est insupportable, il faut que les enfants soient scolarisés ailleurs. Ils allaient à Villeneuve-d'Ascq, dans une ville nouvelle, plus, voilà, et plus présentant mieux, et puis c'est vrai qu'il y avait des possibilités d'avancer comme ça. Ça pose quand même un problème extrême quand on a une administration municipale, au niveau hiérarchique complet de tout le monde, qui a quitté le territoire qu'elle administre. C'est quand même, moi ça fait question. Et donc effectivement, une des choses qu'on a pu faire à travers ce travail d'aide à la population, c'était de redire aux gens, oui, il y a des bruits, c'était de ramener cette réalité-là dont la ville n'avait absolument pas rendu, c'était absolument pas aperçu. Donc effectivement, de faire prendre conscience de ces éléments, et du même coup, de retravailler, bon, en gros, ça a amené à travailler sur un changement de génération au niveau du personnel communal, quoi. C'est-à-dire de voir quelle était, on ne pouvait pas les obliger à revenir, mais enfin, d'avoir une cartographie assez précise du départ à la retraite, pour pouvoir passer à d'autres gens, et qui, eux, pouvaient être essayés d'être embauchés autrement qu'à travers ce qui est souvent l'administration municipale, c'est une forme de cooptation familiale pendant un certain nombre d'années, sur plusieurs générations, ce qui contribue à son figement. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que je continue, je peux donner un petit aperçu de... Oui, oui, enfin, oui, par ailleurs, alors après, j'ai travaillé sur la délégation interministérielle au RMI, et puis je me suis occupé des aspects santé, et donc j'ai suivi les aspects santé pendant tout le reste de ma carrière, la CMU et l'aide médicale notamment. Mais juste sur la situation actuelle, moi je suis assez frappé de voir que, d'une part, c'est la réapparition des taudis. Alors qu'effectivement, à un moment donné, et je peux dire qu'effectivement, je me souviens, je ne sais plus quel ministre avait dit, ça y est, nous avons à peu près, nous en avons terminé avec les taudis, et on pouvait avoir la liste, on la connaissait, on pouvait en dialoguer, enfin voilà, c'était clair. Et effectivement, à travers une amélioration, l'APL, enfin toute une série de choses, une amélioration de la qualité de l'habitat absolument incontestable, mais qu'effectivement aujourd'hui on voit réapparaître des taudis, alors des taudis de pire condition. Ça va aussi bien des HLM qui se dégradent, des copropriétés dégradées, c'est-à-dire ça c'est l'usure sur place d'une partie du patrimoine, ou bien des gens qui sont des bannis. Alors c'est le problème des Roms par exemple, alors ça c'est presque l'exemple caricatural aujourd'hui, les Roms, et je peux vous dire, dans la commune où je suis aujourd'hui, avoir des Roms c'est pas une partie de plaisir, hein. Et ça pose d'énormes problèmes à tous les niveaux. Ceci étant dit, ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait, et est-ce qu'on peut avoir des gens sans existence pendant longtemps, quoi. C'est tout ce problème, comment on en rapport à la population. Et puis, alors j'évoque juste la loi d'Allo quand même. Dans la loi d'Allo, le préfet a une priorité d'attribution des logements pour les gens qui sont effectivement dans ces situations très difficiles. Je vis dans une commune, dans 50% du logement et du logement social. Donc le préfet attribue. Donc effectivement, des communes, disons, ouvrières, disons, populaires, se retrouvent avec un effet où on leur attribue des familles les plus pauvres. Et donc on a un effet mécanique d'accentuation de la paupérisation de ces communes, dont effectivement on peut se poser des questions. On peut se poser des questions, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer et quelle cassure sociale on va produire, à mon avis, très court terme. Sauf à rebouger les choses un peu autrement, mais c'est vrai que voilà, je pense que ça amène à ce qu'au niveau des groupes d'habitants, puisque j'anime un groupe d'habitants maintenant que j'ai le temps, la question du peuplement, le rapport à la population, de l'équilibre entre les communes en région parisienne, apparaît sous des formes complètement différentes. Et je pense que ce sont des débats politiques voilà, intéressants sur lesquels on est amené à travailler assez régulièrement. Voilà.
Merci Olivier. Je crois qu'on va enchaîner sur quelques mots de Valérie et ensuite faire un dialogue collectif qui reprendra les divers points qui ont été évoqués.
Oui, ben en fait, je vais un tout petit peu poursuivre le dialogue qui avait commencé tout à l'heure. Hein. Malgré l'intérêt que je porte par ailleurs aux questions urbaines en banlieue et autres, j'en ai approché un certain nombre, dont celui d'ailleurs d'un ensemble social dans lequel je travaille actuellement, qui est en plein cœur de Paris, à Belleville. Voilà. Où ce qui est surtout très très dégradé, c'est la situation relative au travail et aux moyens d'existence des gens, enfin bon, il y a ça un peu partout, avec effectivement l'économie parallèle de la drogue notamment. Bon, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu désespérant à un moment, parce qu'effectivement, là, il y a une accélération des dégradations, je dirais, dans la mentalité des populations, qui veut dire que si en effet on veut reprendre les choses au niveau métropolitain, comme disait Oreste, ben, il faudrait vraiment se lever de bonne heure pour aller discuter avec les gens et les persuader qu'il vaut mieux faire des groupes et travailler ensemble que. Il faut beaucoup d'énergie hein, pour ce. Je ne sais pas si ça va repartir de quelque part dans ces quartiers-là, mais ça serait bien. Mais il y a beaucoup à faire. Pour refaire un communisme de base dans les quartiers populaires actuellement, ça me semble. Comment ?
Je sais pas, enfin, il paraît qu'il y a beaucoup de surpeuplement dans les quartiers populaires.
Oui, c'est très dense, oui.
Non, mais attends, il y a la densité construite qui est une chose, et il paraît que la colocation, je sais pas quoi, bat son plein, et qu'il y a un surpeuplement, et qui est quand même, bon, moi, ce que me racontaient mes étudiants, à base de solidarité ethnique ou familiale, comme on voudra, mais qui pourrait être donc parler autrement que ça ne l'est pour l'instant, puisque c'est caché ou bien carrément contré par les opérations en rue qui ne relogent que. Les opérations en rue, c'est les opérations de rénovation urbaine qui ne relogent que les gens qui sont là de manière officielle et donc poussent les autres ailleurs à se réfugier. On ne sait pas où, mais finalement, à travers ces pratiques donc, d'entraide pour le. Et de grattage de fric à l'occasion aussi pour le relogement ou le logement tout court des arrivants. Enfin, il y a quelque chose finalement qui est intéressant qui se passe quand même.
D'accord. Bon, après, c'est vrai que j'étais quand même très sensible à un point qu'a soulevé Oreste et qui est la question de l'inimitié intérieure. Parce que je pense qu'en effet, c'est vraiment un problème d'écologie mentale très fort, notamment dans la gauche, voire l'extrême gauche, en tout cas celle que je connais, c'est-à-dire française, parce que moi je voyage pas beaucoup, contrairement à d'autres. Donc, qui est un truc absolument incroyable, quoi, parce que ça a vraiment été une manière de se tirer une balle dans le pied extraordinaire, quoi. Et ça continue. Donc, c'est vraiment un phénomène qui interroge, je dirais, vraiment. Voilà. Et je pense que ça faisait partie, en effet, des questions qui intéressaient Félix.
Bon, alors.
Bah, on le voit se reproduire sans cesse, quoi. Non, j'ai pas envie de pointer du doigt qui que ce soit, justement, parce que ça. C'est des questions qui sont difficiles à soulever sans rentrer dans ce jeu-là lui-même. Mais il y a une tendance, en effet, à l'accusation du plus proche qui est très très rapide, quoi, dans tous les milieux contestataires
dans ce pays. Et bon, après, les questions qu'il soulevait dans le dernier chapitre, il soulève des questions qui sont relatives au vert. Bon, ça, bah, bon, on pourrait dire que c'est les enjeux du pouvoir, hein, de toute façon, même s'ils sont, quels qu'ils soient, qui ne sont pas forcément vis-à-vis de l'État, d'ailleurs, directement. Pour certains, oui, bien sûr, parce qu'il y a des postes qui sont brigués, des choses comme ça. Pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit plus de leadership symbolique ou dans des petits milieux groupusculaires, etc. Peu importe. Hein. C'est pas toujours l'État qui est en cause. C'est sans aucun doute des rapports de force, savoir qui a raison, etc. Enfin bon, voilà. Tout le monde connaît bien ça ici, je pense. En tout cas, c'est vrai que... Bon, par exemple, sur un terrain qui est le terrain antinucléaire actuellement... qui est un terrain important, voilà. Anne disait tout à l'heure qu'on n'était plus dans les angoisses de la fin de siècle, d'accord, peut-être, mais je ne suis pas sûre que ça soit si, qu'on ait vraiment changé de monde comme ça au tournant du siècle, notamment, bon, par exemple, la question du nucléaire, bon, c'est un truc énorme.
Tu veux dire que ce n'est pas juste une question de numéro, que ça ne s'est pas fait la nuit du premier...
Entre autres.
Sa méthode. Autres, ouais.
Non, mais je pense que les angoisses de catastrophe globale sont tout aussi présentes aujourd'hui qu'il y a 20 ans, quoi, voilà. Et si ce n'est plus. Mille,
oui. Comment ? Qu'en l'an 1000, qu'à la fin de l'Empire romain. Vieille.
Oui, enfin, sauf que l'humanité aujourd'hui a quand même des effets physiques globaux qu'elle n'avait pas en l'an 1000, si tu veux. On connaît, on sait comment fonctionne la planète et on sait qu'on a des effets physiques sur le fonctionnement global de la planète et pas seulement sur tel ou tel milieu qu'on dégraderait, si tu veux. Bon. Donc, je ne suis pas trop d'accord pour le voir comme ça. Et même chose sur l'histoire du désir panique, bon, je veux bien, si tu veux, et même de dire la précarité est belle, etc. C'est un débat qui a été très vif, justement, dans les milieux intermittents et précaires, évidemment. Donc il y avait la Precare Pride, donc tu as dû entendre parler, qui était quelque chose au niveau européen, etc. Voilà. Après, je pense que, si tu veux, c'est comme, bon, c'est comme la question de la psychose, si tu veux. Voilà, on peut dire en effet, il faut rechercher le point singularisation le plus extrême, etc. Et il vaut mieux délirer que d'être dans l'effondrement qui précède le délire ou que le délire essaie de combler. Voilà, bien sûr. Après, si tu veux, il y a voilà, je pense que le moi, c'est comme l'État, c'est comme plein de choses comme ça. Il en faut un peu pour pouvoir le critiquer tranquillement et pour pouvoir s'en passer. Voilà, la précarité, c'est une très belle posture, mais tout le monde n'en a pas les moyens. Voilà, je dirais ça rapidement. Et c'est peut-être en effet ce qui a posé problème, je dirais, dans la réception de certaines pages, peut-être pas dans l'écriture, mais en tout cas dans la réception et la diffusion de certains des propos de Guattari, oui. Et peut-être certains, d'ailleurs, ont payé très cher le fait d'avoir pris trop à la lettre certaines de ces pages, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas, je dirais, les moyens, finalement, de pouvoir aller jusque-là. Il faut quand même être assez costaud pour pouvoir être dans un éloge de la folie. Sans ça, on prend de gros risques. Voilà, donc d'une certaine manière, moi-même, à certains moments, j'étais gênée, je l'ai dit d'ailleurs à Pascal en moment d'étape, je me dis, bon, il fait, par exemple, le chapitre qu'on a vu la dernière fois, il commence par la question du sentir, hein, voilà, il faudrait recommencer par le sentir, donc là on peut reconnaître d'ailleurs des échos du côté de Deleuze, la logique de la sensation, etc., voilà. Chose qui est d'ailleurs assez nietzschéen, il faudrait commencer d'abord par revoir les façons de sentir pour pouvoir ensuite pouvoir penser différemment. Bon. Et puis finalement, on lit le reste du chapitre et il n'est nullement question du sentir, il est question d'autre chose qui est la question de la création. Et c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et finalement, on se demande si Guattari ne convoque pas l'art et la question du sentir parce que, en effet, c'est en conjonction, chez les artistes, les deux choses sont en conjonction. Le fait d'être plus du côté du sentir et en même temps plus du côté de la création. Mais est-ce que le but Est-ce que le but du propos de Guattari n'est pas purement du côté de la poésie, justement, et non pas de l'esthétique et du sentir? Voilà, une question que je me suis posée. Bon, finalement, quand on remonte plus loin, plus haut dans certaines pages, notamment celle où il parle de Stern, très longuement, dans le chapitre sur la schizoanalyse, là, effectivement, bon, je me détends un peu, je me sens plus à l'aise, je me dis oui. En effet, il est, parce qu'il est là, question du soi émergent, donc effectivement de ces instances, on pourrait dire, pré-langagières de la subjectivité, donc précaire, bien sûr, mais une précarité qui n'est pas forcément question de cultiver, mais plutôt de retrouver comme espèce de base d'une subjectivité, pas nécessairement du côté du discours, donc en effet plus du côté du sensible, et donc quelque chose que Guattari a sans aucun doute essayé d'amener aussi dans les milieux militants qu'il fréquentait fortement, en disant voilà, peut-être arrêter de passer notre temps à discourir et donc de se taper sur la gueule les uns des autres, parce que le discours ça va quand même très souvent avec ça. Et donc, de revenir peut-être à des choses plus du côté de la sensation, et pourquoi pas aussi, en effet, comme le disait Oreste, de la vie matérielle. Voilà. Et donc, voilà, pas uniquement l'écologie du virtuel, mais aussi la question du corps, il le dit dans plusieurs pages, qu'il faudrait repenser aussi à nouveau frais, et pas seulement comme le corps... le corps désanimisé du savoir biomédical, aussi performant soit-il, mais qui en effet pousse à cette espèce de dualisme complet. Voilà. Donc voilà, là je trouve qu'il y a des billes, en effet, y compris de ce côté-là, vraiment du côté de quelque chose qui, où il pourrait y avoir en effet de la proto-subjectivité sensible, et pas uniquement de la création d'univers virtuel, etc. Bon, moi je trouve que là, des fois, il y a un peu de naïveté chez lui, comme il y en a chez Tony Negri quand il parle du communisme déjà réalisé dans le capitalisme. Si c'est un peu du même ordre pour moi, et c'est un peu d'une certaine époque, quoi, voilà, où on avait... Voilà, où la crise n'était peut-être pas suffisamment approfondie pour mettre en cause un certain nombre de croyances, je dirais. Voilà.
Tu veux dire un tout petit truc parce que ce que vient de dire Valérie m'évoque enfin une impression que j'ai eue souvent. Quand les gens parlent des textes de Félix en termes de mots d'ordre, c'est-à-dire, il aurait dit « soyez précaires les gars ». Bon. Or, moi j'ai l'impression que c'était, pour ce que j'en connais, toujours une espèce au contraire de « faire avec ». Il y a de la précarité, il faut faire avec, parce que par contre la position de la CGT, que je viens encore de voir il y a deux jours, sans emploi à temps plein, avec un SMIC à 1 200 €, on ne peut pas vivre et c'est pas la peine d'avoir aucune autre revendication. Bon, ben ça, franchement, c'est vrai qu'on a fait l'expérience, ça nous mène nulle part. Et là, on est vraiment, par contre, dans le mot d'ordre. Alors, comme disent les copains de la CGT, tu comprends, Anne, c'est un mot d'ordre simple, compréhensible par tout le monde. D'accord. Mais, bon. Et c'est se faire avec hyper pragmatique, que moi j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant, et de conjuguer des choses de différents univers ensemble. Et justement, bon, par exemple, si on parle de la précarité, bon, tu vas dans un mouvement où tout le monde est précaire, et on sait que toi, tu es cadre supérieur au ministère de l'écologie. Bon, il y a des gens qui te disent « Anne, tu n'as rien à faire ici ». Bon, et moi je dis « Mais si, ça m'intéresse, j'ai envie de, je sais pas quoi, discuter avec vous, aller à votre manif, bon, qu'est-ce que tu fous là ?» Bon, alors... Deux choses. Une, où il y a des copains qui font le lien et qui disent « mais oui, reste », ou effectivement, tu te tires. Et c'est vrai que l'inimitié dont tu parles, elle est beaucoup liée à ces espèces de cloisonnements, mots d'ordre, groupes fermés, représentation par les mots d'ordre adéquats à la situation, c'est quand même vraiment, depuis 65 que je connais Félix, toujours ce contre quoi on a lutté partout où on est passé. Hein.
Alors, mot d'ordre ou pas mot d'ordre, je crois qu'il se passe dans ces réunions de Cosmos aussi quelque chose qui est de l'ordre du tissage. Mais pas un tissage où on prendrait des brins de laine homogènes et grâce à la navette, la trame et la chaîne, on en ferait un tissu homogène, mais plutôt une forme de tentative effilochée. Donc, plutôt du côté du jute, hein, n'est-ce pas ? Du feutre, c'est-à-dire plutôt du côté de la manière de briser des de tissus composites. Merci à Nanfé, les sœurs siamoises. Et ça vaut aussi beaucoup pour ce que vous avez fait toutes les deux, violoncelle et cri, chanté, parole, soufflé. Et le fait d'avoir ça au milieu d'une parole un peu théorique, d'une parole politique, de quelque chose aussi qui s'est noué ce soir et qui était la dimension du vécu, non ? La dimension du vécu des témoins, mais aussi la dimension prospective actuelle. C'est quelque chose qui se tisse de manière anachronique et contrastée. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, où il faut, quand tu disais, ben, il faut penser en fait aussi à l'Antiotype en 72, enfin, c'est 40 ans, c'est vrai ? Enfin, c'est quand même... Parce que, oui, mais c'est vrai, il y a le côté mot d'ordre. Disons que nous autres philosophes, on a tendance à mot d'ordroiser, penser un petit peu de nos fonctions, de rassembler par le discours. Mais justement, ici, je crois que il se passe quelque chose dans l'ordre du discours qui n'est pas seulement du tout, qui n'est pas seulement du tout mot d'ordre discursif, et qui est lié à la circulation, la respiration, la conspiration entre nous, conspiration d'éléments, éventuellement dans l'inimitié, l'amitié ou la Feindschaft, l'inimitié intime. Donc des discours dont les bords ne sont pas composés ensemble, mais qui sont contrastés. Et c'est ça exactement ce que tu disais aussi, Manola, la cartographie, le rhizome, c'est-à-dire l'idée que... Et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre l'esthétique. Et pour te répondre, Valérie, je ne crois pas que dans l'utilisation d'esthétique, il y ait quelque chose qui s'adresse simplement au sentir. C'est-à-dire, je ne pense pas du tout que Guattari pense à un corps sentant. Quand il dit paradigme esthétique, je pense qu'il veut dire une manière de penser la pensée. Une paradigme au sens de Kuhn. Une manière de dire que quand on pense, on ne pensera plus aujourd'hui ensemble. On ne pensera plus pour le passé, comme si on découvrait quelque chose qui a déjà été là et qui restera ainsi. Mais en pensant, on conspire à transformer la réalité. C'est la définition de la cartographie. Donc, en pensant, paradigme esthétique, ça veut dire que penser, et ce ne sont pas seulement les artistes qui pensent, ni seulement les philosophes, penser, c'est pragmatiquement bouger dans le territoire. C'est ce que tu disais aussi en citant cette magnifique formule de Rhizome. Écrire n'a rien à voir avec signifier, mais à arpenter éventuellement des contrées à venir. Ouais. Et en réalité, le Rhizome définissait ça avec l'idée que connecter, ce qu'on fait ici un petit peu, connecter se fait par hétérogénéité. Bon, ce qui ne veut pas dire que quand on connecte des choses dissemblables. C'est la première idée, mais c'est faux. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire que connecter, c'est connecter des différents. Parce que si vous dites ça, alors la connexion consiste à produire ensemble de l'un. C'est pas connecter des choses différentes. Au contraire. C'est que en connectant, on produit de la différence. C'est pas connecter pour mettre ensemble du bleu et du vert, obtenir ensemble autre chose. C'est en connectant en connectant. D'accord. Attends, mais tu vas pouvoir t'exprimer, je termine parce que j'ai pas. C'est pas complet, il faut que je dise encore trois trucs. Donc, mais rapidement. Donc, ce que je veux dire, c'est connecter n'est pas prendre des choses différentes et les rassembler. Connecter, c'est à partir du moment où on fait du lien, on crée de la différence. Je donne toujours l'exemple de l'amour. L'amour, c'est pas prendre deux différents pour faire une grosse pelote, la différencier. Dans la connexion, les deux sont transformés. Donc, ce que je veux dire, c'est que connecter, c'est produire de la différence pour ceux qui sont connectés. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que Deleuze et Guattari disent que connecter, c'est produire de l'hétérogénèse, c'est faire de l'hétérogène, et donc que ça se passe à la fois par multiplicité, c'est évident, puisque quand on connecte comme ça, évidemment, on est dans le multiple, on n'est pas dans l'unitaire, on ne produit pas de l'un. Il y avait du multiple, mais en connectant, on a produit encore plus de multiples. Et c'est pour ça aussi que le quatrième critère est celui de la rupture insignifiante. Parce que quand on connecte comme ça, évidemment, il faut qu'on coupe les choses, mais pas par où c'était coupé avant. Il faut qu'on coupe en connectant. Donc on n'a pas de l'un qu'on connecte avec de l'autre pour avoir un deux qui est à nouveau une unité. On a quelque chose qui, en se connectant, on s'est coupé à un moment. On n'était pas coupé comme ça avant. En se connectant ici, on se coupe, on se recoupe. Tu viens de me couper la parole, tu recoupes ce que j'ai dit. Ça transforme ce que j'ai dit. C'est ce type de pensée, de la parole et de la pensée qui me semble complètement, vraiment, brutalement nouveau. Voilà. Donc les critères sont très simples, connexion, donc hétérogénéité, donc multiplicité, donc pas rupture hétérogène. C'est ça une cartographie. Une cartographie, c'est ça. C'est moi. Prends le... Si tu veux.
C'est ça, les principes de la cartographie, ce sont ces quatre et pas cinq, etc. Pourquoi?
Parce que c'est mon plaisir aujourd'hui.
Ah oui, mais alors son peuvent être ça, pourrait être. C'est le son de la du présent de vérité universelle qui est un peu étonnant.
Pourrait.
Je ne sais pas si c'est une vérité ou pas une vérité, mais ce que je peux dire, c'est que ce qu'elle vient de dire là. Moi je vis comme ça et je le sens comme ça au quotidien. Enfin, ça fait résonance parce que ma réalité, je vois bien qu'elle fonctionne comme ça. Je fais un lien, ça fait des ruptures, c'est autre chose. La subjectivité se transforme. Après, bon, il y a d'autres mots qui sont très... l'altérité, le machin, tout ça, on en a eu plein jusque-là. Bon, c'est vrai que ça produit des choses que si j'avais pas créé un lien avec quelque chose qui m'étonne parce que c'est différent de moi, il ne se serait jamais rien passé. Donc pour commencer à imaginer quelque chose puisse se produire par un frottement d'idées, etc., bon, ça peut faire des étincelles, ou au contraire, on dit, bah, finalement, c'était une douche froide, et puis basta, sinon on peut se tromper, hein, parce que voilà, bon, il y a des célèbres formules pour ça. Mais de toute façon, on voit bien que pendant qu'on est là, on n'est pas où on était avant, on s'est déplacé. On s'est déplacé, on a arpenté quelque chose, on s'est mis en mouvement. En tous les cas, cet étonnement produit du mouvement. À partir de là, tout ce qu'elle vient de dire, Anne, moi ça me fait écho, sans dire est-ce que c'est la vérité, c'est pas la vérité, mais ça me renvoie à quelque chose de concret, voilà.
Attends, faut que tu dises que ça produit de la différence, autrement ça marche pas.
Oui, et ça produit de la différence.
Il y a juste deux trois choses qui me frappent. C'est quoi la différence entre une détériorisation, c'est un mot à prononcer, c'est difficile à prononcer, comme, et une délocalisation? Parce que ce qui me frappe, c'est qu'on n'a peut-être pas assez parlé de la demande d'État en ce moment, la demande de l'État. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure de la politique de la ville. Et ce qui est intéressant dans l'exemple des Roms, qui a été largement médiatisé pour des arguments électoraux qu'on connaît bien, c'est que c'est peut-être une population dont on se demande comment la reterritorialiser. J'arrive vraiment pas à penser. Donc voilà, ça. Et le discours sur la flexibilité, le nomadisme, qui était un discours qui moi m'intéresse, Deleuze Guattari, j'ai beaucoup lu ça, même si j'ai pas lu, je le concède, Chaosmose, que je vais m'empresser de lire. Ce qui me frappe, c'est comment articuler justement les parts nomades qu'on a en nous et les parts sédentaires qui sont demandées comme telles, parce qu'il y a des gens qui deviennent. Le marketing a repris le discours de la flexibilité. Il s'y complaît, il a une grande efficience à dire soyez flexible, vous habitiez Paris, vous allez maintenant bosser à Marseille, vous avez des morceaux de temps dans votre journée, comme ça vous serez des gens ultra nomades. Donc comment nous on fait avec ces boîtes à outils théoriques pour se démerder entre délocalisation et déterritorialisation, et comment on peut demander de l'État sans apparaître comme quelqu'un qui fait une demande de couvercle un peu réactionnaire, comme ça, réenfermant, vous voyez. Et comment on se débrouille avec ça? C'est une question que je lance, voilà. Vaste question, je ne vais pas résoudre ça à 22h43, mais elle me frappe, voilà.
Non, mais d'abord, quand même, dans votre question, ce que je remarque, c'est la réification des concepts. C'est-à-dire que le fait de parler de... Non, mais sérieusement, le fait de parler de déterritorialisation, hein, du désir, ça ne veut pas forcément dire que ça fout le camp, ou d'identifier ça avec nomadisme. Par exemple, dans... Quoi? Oui, mais même la nomadologie, c'est-à-dire que quand on parle, par exemple, bon, de la machine de guerre nomade dans Mille Plateaux, on parle effectivement d'un rapport au territoire, bon, nomade, effectivement, qui veut dire de l'itinérance et des circulations, etc., par rapport à des villes qui sont effectivement fixes et étatisées, et les deux qui se battent et tout ce qu'on veut. Bon, c'est... En fait, ce qui est surtout mis en valeur, c'est deux rapports au territoire, à l'agencement collectif différent, qui sont un petit peu chosifiés effectivement dans l'exposé, mais qui servent au fond, même s'ils n'aiment pas les métaphores, ça sert en réalité de métaphore pour analyser des tas de situations.
Une chose, c'est la réification. Pour moi, c'est des boîtes à outils. Hein. La philo, c'est des boîtes à outils. C'est ce que dit Deleuze. Hein. Je réifie.
Oui, pas, non, mais tout à fait. Réifier, hein.
Mais quand on parle, on réifie souvent. De
l'industrie. Non. Mais je crois qu'il y a juste un besoin de précision de vocabulaire avant d'entrer dans la discussion que propose Anne. Délocalisation, déterritorialisation. Rien à voir. Déterritorialisation, ça le fait dans la bouche déjà, c'est super dur à dire.
Je sais, mais le marketing fait croire que ça a à voir.
On s'en fout.
Non, on s'en fout pas.
Mais on s'en fout complètement, ce qui compte.
Non, mais... là, vous avez justement un effet d'imposition du discours. Pourquoi on s'en fout tous d'en foutre?
Non, mais
je trouve pas que ce soit vrai.
Je voulais dire autre chose en fait. Je voulais tenter, mais peut-être que c'est pas le moment. Je voulais tenter de donner une définition de ce qui, d'après moi, correspond à déterritorialisation et faire la différence avec délocalisation. Parce que j'avais l'impression que c'était juste une méprise sur les mots. Une méprise sur les mots. C'est ça que. Ça vous intéresse que je vous dise ce que je pense être? Alors, j'y vais très rapidement. Quand on dit déterritorialisation, on a la langue qui fourche un peu. Ça le fait dans la bouche. L'exemple le plus simple, c'est sans doute l'exemple avec lequel Deleuze et Guattari travaillent dans le bouquin sur Kafka de 1975, en disant que Kafka, en Bohême, en Tchécoslovaquie, parle allemand. Donc il parle allemand, mais très très loin de Berlin. Mais il parle allemand dans un empire, qui est l'empire austro-hongrois, Österreich. Et dans cet empire, on parle bien de l'allemand, mais ce n'est pas l'allemand de Berlin. Cet allemand, il est déjà déterritorialisé. Mais alors attention, n'allez pas comprendre qu'il y a un vrai allemand, l'allemand de Berlin, et puis un faux allemand, l'allemand de Bohème. En réalité, cette chose-là qui se passe pour les langues, se passe aussi à tous les niveaux spatiaux, déterritorialisation, des modes, disons, d'agencement. C'est qu'on s'agence par transformation, par modulation. Et donc, quand Kafka écrit, par exemple, bah, il re-territorialise, enfin, il fait à la fois un changement de l'allemand, si vous voulez, mais en même temps, il apporte à l'allemand de Berlin une connotation, une dimension supplémentaire. Ça va dans les deux sens. Donc, ce que disent Deleuze et Guattari, c'est que si on veut comprendre comment il y a de la consistance, ce secret, comment il y a du discours, comment il y a de la science, aussi, comment il y a des espaces politiques, des immeubles en construction, comment il y a du commun. Le commun, il se fait par le plus déterritorialisé. Il se fait non pas par de l'un, du donné, du déjà-là, il se fait par de la fuite,
des choses qui ne sont pas encore là, qui se fait par déterritorialisation. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle devient Anne? Comment est-ce qu'il devient Olivier? Par déterritorialisation. C'est une nouvelle conception de l'identité, mais ce n'est pas une identité identitaire, c'est une identité de l'hétérogénéité. Donc, rien à voir avec la délocalisation qui consiste à prendre quelqu'un et puis à lui foutre un coup de pied au cul. D'accord.
Oui, mais justement, je ne pense pas, et on en a eu un exemple tout à l'heure. Il y a plusieurs personnes qui ont revendiqué de la lenteur par rapport à l'accélération. Bon, ben ça, c'est une bifurcation par rapport au territoire obligatoire que nous enseigne le marketing. Donc, il y a dans cette pièce de la déterritorialisation par rapport au territoire imposé. Le territoire imposé peut parfaitement être en mouvement. Je prends un autre exemple. Le territoire des femmes, vous avez un journal qui s'appelle Elle, bon, quelques autres pareils, hein, mais moi c'est surtout celui-là que j'ai dans le citron, qui nous représente le territoire des femmes. Et effectivement, maintenant, une femme moderne, elle prend des avions, elle est chef de je ne sais pas quoi, enfin bon, extraordinaire, etc. Bon, et par rapport à cette représentation des femmes, qui conduit effectivement marketing, vous avez tout à fait raison, d'avoir un boulot où on est capable de prendre des avions et tout ce qu'on veut.
Les 5 enfants.
Comment ?
Les 5 enfants.
Non, 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 il n'y a pas, dans Elle, il n'y a pas 5 enfants. Non, non, il y a une diversité de ce point de vue-là. Bon, un certain type de fringues, un certain type de niveau de vie, etc. Alors, moi, par exemple, je suis une femme, je me sens vraiment mal à l'aise avec ce truc-là, même si je le regarde chez le coiffeur. Et je me dis, premier temps, je me dis, ah, je ne suis pas une femme normale, je ne suis pas désirable parce que je ne suis pas comme il faut et tout. Deuxième temps, je regarde autour de moi, je m'aperçois que la plupart des femmes sont exactement comme moi et finalement sont toutes à leur manière déterritorialisées par rapport à ce territoire représenté par le marketing dont vous parlez, qui est effectivement une des nouvelles modalités de production de territoire.
Je voudrais non pas ajouter, mais faire une petite couleur. Dire par exemple que Déborah joue un violoncelle, qui est un violoncelle classique, normal d'apparence. Et pour faire ces sons qu'elle a fait tout à l'heure et qu'elle va peut-être faire encore tout à l'heure encore, eh bien, on a modifié, fait écouter les quelques cordes que tu as là, qui sont toutes les mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est plus un violoncelle classique, mais... Peut-être que dans Ta Osmose, si Guattari se tourne vers certaines dimensions de l'art, tout en disant bien que l'art n'est pas l'exemple, et puis en plus il appelle l'art à être autre chose qu'un produit du marché, qu'un produit de vitrine, qu'un produit spéculaire, spéculatif. Donc il y a bien sûr quelque chose qui est en dessous les productions, qui est sous les agir, dans quelque domaine qu'il soit, qui concerne chacun dans ce qu'il peut effectivement créer comme envie, comme quelque chose qui lui donne le sentiment d'être vivant, tout simplement ça, parce qu'on a parfois l'impression d'autre chose. Donc constituer une pensée dans laquelle on accorde de l'intérêt à ça, hein, à fabriquer quelque chose d'autre que le marché imposé, voilà, c'est peut-être... une chance déjà de ne pas être seul à se le dire et à le faire. Thank you.
Thank you.